Bonjour. Donc on va commencer ce nouveau Humanumbar. Donc c'est une formule qu'on a lancée à la fin de l'année dernière pour permettre aux utilisateurs d'Humanum ou aux personnes qui ont lancé, aux porteurs de projets de recherche ou à des équipes de recherche qui souhaiteraient utiliser nos services ou qui ont des besoins particuliers, de mieux nous connaître et de pouvoir poser aussi leurs questions en direct, puisque plusieurs membres de l'équipe d'Humanum, notamment de l'infrastructure et des services techniques numériques proposés par Humanum, sont là à chaque séance pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, Nicolas Larousse, Joël Marchand, Thomas Odo et Michel Jacobson seront présents pour répondre à vos questions en direct. C'est aussi pour ça qu'on restreint le nombre d'inscriptions. Donc notre volonté, c'est vraiment d'avoir un petit groupe à chaque fois pour qu'on puisse laisser un maximum de place aux échanges et qu'on ait vraiment le temps de répondre à vos interrogations. Et ces séminaires ont lieu à peu près tous les mois. Donc vous avez peut-être vu sur le carnet de recherche Humanum que des dates sont programmées jusqu'en juillet. Donc ça vous donne l'opportunité de venir une fois, puis peut-être aussi de revenir, parce que vous allez voir qu'on intervient à différents moments, à différents stades de maturité des projets. Donc un de nos objectifs aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il est intéressant de nous contacter le plus en amont possible pour que l'on puisse justement s'adapter au mieux à vos besoins. Et puis l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière on peut vous être utile, donc d'essayer de dégrossir un maximum pour proposer des services et des options qui soient intéressantes et vraiment, vraiment adaptées à vos besoins. Et pour cela, donc pour tout ce qui est projet ANR, ERC, on commence à avoir de plus en plus de demandes et on est parfois contacté dans l'urgence pour différentes raisons. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est plus difficile de répondre. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette réflexion bien en amont de ce que l'on veut faire, comment on veut le faire, pour qu'Humanum puisse au mieux vous accompagner en fait dans votre démarche de porteur de projet.
Peut-être préciser justement qu'il y a certains Humanumbar qui sont plus orientés en fonction des périodes de l'année, évidemment, ERC et ANR, puisqu'il y a des moments où vous devez répondre à vos appels. Et donc, on les oriente plus sur ces aspects-là, puisque dans ce cas, c'est un peu plus précis au niveau des demandes. Ce n'est pas très généraliste, c'est vraiment dans le but de répondre au dossier et de coller bien au dossier ANR et ERC.
Voilà, on a déjà fait effectivement une session l'année dernière. Je crois qu'on avait d'ailleurs commencé par ça pour l'ANR. Il y aura une prochaine séance qui sera consacrée en particulier au projet ANR en avril. Et la séance prochaine, donc de février, devrait être consacrée aux ERC. On en a fait une en fin d'année et c'est vrai qu'on avait eu beaucoup de demandes. Et puis on avait aussi, ça nous avait aussi permis d'impliquer notre délégation régionale et la personne du service de valorisation qui est en charge justement des projets européens et aussi qui s'occupe par ailleurs des projets ANR. Donc c'est intéressant de voir, d'avoir en face les différents acteurs qui peuvent vous aider en fait à différents stades et à différents niveaux aussi de vos projets ANR ou ERC par exemple. Et autre chose importante qu'on peut mentionner, mais qui va venir aussi dans le fil de la présentation, c'est la petite équipe qu'est Humanum pour la très grande infrastructure de recherche que nous sommes. C'est un élément important à prendre en compte aussi dans nos réponses, en fait, et dans les délais qu'on peut mettre. Et c'est aussi pour ça qu'on favorise la consultation en amont. Parce que c'est parfois, si on est assailli de demandes à la même période, ce qui, à l'approche des deadlines des dépôts du dossier, se comprend, voilà, ça peut être plus compliqué pour nous d'apporter une réponse rapide. Mais cela dit, on s'y emploie aussi. Alors, on va commencer par une présentation de notre infrastructure, une présentation assez rapide. Il y a peut-être des niveaux de connaissances aussi assez disparates de l'infrastructure parmi vous, mais vous pourrez aussi poser vos questions par la suite. Donc une présentation plutôt généraliste et ensuite un petit peu plus dans le détail, mais pas trop non plus, des services qu'Humanum propose, puisque Humanum est une très grande infrastructure de recherche dédiée au SHS, au même titre que d'autres grandes infrastructures que vous voyez ici, comme la flotte océanique française. En fait, c'est vraiment de gros consortiums parfois. Donc on est à ce niveau-là pour les SHS. Donc toute demande qui serait insérée dans ce champ peut nous parvenir pour ce qui est des projets numériques dans la limite de nos capacités humaines et techniques qui sont assez avancées maintenant. Alors comment Humanum s'organise-t-elle? Vous voyez grâce à ce petit schéma qu'au cœur vraiment de notre infrastructure sont situés les projets de recherche et les données de la recherche. C'est vraiment le cœur de métier d'Humanum de parvenir à préserver ces données pour qu'elles puissent être utilisées, réutilisées dans le long terme selon des formats et des standards qui sont adaptés. Donc on accompagne aussi bien sûr les chercheurs, les porteurs de projets de recherche dans ce sens-là. Et on mentionne les projets de recherche parce que c'est en général la granularité que l'on accompagne. C'est difficile d'accompagner individuellement un chercheur sur une de ces problématiques. Cela dit, ça nous arrive aussi. Hein. On a des demandes assez variées qui nous parviennent. Mais dans ces cas-là, vu l'ensemble des demandes, on essaie de l'intégrer à des groupes qui ont déjà réfléchi à ces problématiques. Alors, ça peut être des consortiums de la TGIR, on y reviendra très vite tout à l'heure. Ça peut être d'autres projets qui ont déjà eu à faire, qui se sont déjà confrontés à des problématiques similaires et qui peuvent être vraiment d'une grande aide pour la personne. Parce que, comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui une quinzaine et humainement et techniquement, c'est impossible d'accompagner individuellement des centaines de chercheurs, par exemple, qui nous feraient des demandes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se situe principalement à ce niveau. Pour organiser justement ce dialogue finalement entre les chercheurs, les porteurs de projets et puis aussi les techniciens, Humanum a proposé la création de consortiums qu'elle labellise, qui sont suivis et évalués par le conseil scientifique d'Humanum. Alors les consortiums sont en réalité des groupes de personnes, de chercheurs, d'ingénieurs, de bibliothécaires, par exemple, qui travaillent sur des objets communs ou des méthodologies communes et qui se sont regroupés. Alors en général, lors d'appels, c'est comme ça qu'on a fonctionné au début des années 2010. Donc ils ont répondu à un appel justement pour créer un consortium, se regrouper, partager leurs bonnes pratiques autour de l'objet ou de la méthode qui avait été identifiée pour partager vraiment leurs connaissances, favoriser l'émergence de standards communs aussi, une façon normalisée de traiter certaines données de leur champ scientifique, par exemple. Ces consortiums ont émergé ainsi. Donc, au départ, 11 consortiums ont été labellisés et donc financés pour 4 ans par la TGIR Humanum. Ça couvre des champs très variés, et pratiquement tous les champs des SHS. Et tous les ans, leur bilan scientifique est analysé et évalué par le conseil scientifique d'Humanum. Et au bout de 4 ans, il y a un bilan quadriennal qui est déposé et réévalué également. De nouvelles demandes de labellisation sont déposées ou soumises auprès du conseil scientifique ou pas. Donc on a vraiment une idée de progrès aussi, d'évolution de ces groupes qui sont devenus de véritables réseaux d'expertise et qui couvrent toute la France maintenant. Et comme je le disais, on passera tout à l'heure un petit peu plus en détail pour voir un petit peu les domaines justement plus spécifiques couverts par ces consortiums. Ces consortiums sont très importants parce qu'ils nous permettent aussi d'avoir un retour sur nos outils, mais surtout, ils sont souvent à l'origine de besoins et donc de réponses qu'Humanum a apportées à ces groupes de chercheurs et donc en fournissant des services que l'on veut, bien sûr, au plus près des besoins des communautés au sens large. Donc c'est vraiment pour nous aussi le moyen de jauger finalement les besoins des communautés et de fournir des services au bon niveau et au bon moment aussi. Et ce qui est très important dans ce dialogue en fait avec les consortiums, c'est vraiment l'idée d'échange mutuel. Donc les consortiums nous apportent beaucoup. Ils formulent aussi des demandes qui nous permettent de faire évoluer nos outils. Et parfois, ils arrivent même à construire des outils, comme je pense par exemple au gestionnaire de thésaurus OpenTeso, qui finalement a été créé par les ethnologues et devenu les archéologues, pardon, est devenu assez générique pour que, avec notre soutien, on développe un outil et on continue à le maintenir et qu'il soit utile pour d'autres communautés aussi. Donc ça, c'est vraiment... on voit qu'il y a un cercle vertueux qui s'engendre et auquel on tient beaucoup. Et puis Nicolas reviendra tout à l'heure sur les services justement qui permettent de stocker, de traiter, de diffuser, d'exposer, de signaler et d'archiver les données de la recherche. Et enfin, le dernier cercle concentrique concerne la partie internationale, puisque Humanum étant une TGIR, elle a vocation à participer à des consortiums européens de recherche. C'est vraiment la spécificité des très grandes infrastructures de recherche par rapport aux infrastructures de recherche en France. Et donc, nous portons aussi la participation de la France à l'IRIC d'ARIA, donc un IRIC dédié aux humanités, aux arts en général. Et nous sommes aussi observateurs dans l'IRIC Clarine, qui est plus spécifique et plus dédié à la linguistique.
Aux ressources du langage.
Oui, voilà, aux ressources du langage.
Plus large que la linguistique.
Voilà. Et il implique à Humanum le consortium Corli, justement, qui est un consortium de linguistique et qui est aussi moteur dans Clarine pour la France. Alors, les consortiums, justement, j'y reviens brièvement. Parce que c'est aussi un de nos filtres, j'allais dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, souvent il y a des demandes qu'on renvoie aux consortiums parce que ces consortiums qui existent aujourd'hui en sont à leur seconde labellisation, donc ça fait un peu plus de 8 ans d'expérience pour les plus anciens, par exemple. Et en général, un réseau assez étendu dans chaque consortium. Donc, c'est vraiment assez efficace de passer par eux pour des questions très spécifiques, et que l'on ne traiterait pas au niveau du Manum. Donc, ça représente, comme vous le voyez, à peu près 100 équipes de recherche. Un réseau réunit des corps de métiers différents, ça aussi c'est vraiment la richesse de ces consortiums, des chercheurs, des ingénieurs, des bibliothécaires, des archivistes, qui font beaucoup de formations, environ 50 actions de formation par an, et qui représentent plus de la moitié du budget de la TGIR. Donc on les finance chacun, donc à hauteur de leur bilan prévisionnel, pardon, et de l'évaluation qu'en fait le conseil scientifique et ensuite le comité de pilotage du Manum. Donc chaque année, ce budget est réévalué, mais voilà, ça représente quand même un budget vraiment conséquent pour la TGIR. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que au niveau international, pardon, le Humanum finance aussi la cotisation de la France pour participer aux ERIC européens. Donc ça a une autre part importante du budget, outre les services que nous créons ou que nous faisons tourner. Au-delà de ce maillage national que représentent les consortiums, national et disciplinaire que représentent les consortiums, on a aussi un ensemble de correspondants dans le réseau des MSH, donc qui est un réseau de partenaires importants et qui peuvent être aussi un autre relais pour vos demandes ou même pour être hébergés hein, comme projet ou comme équipe de recherche. Donc ça, c'est aussi un point important de notre fonctionnement en réseau. Et enfin, pour préciser un petit peu pardon, au niveau international, donc comme je vous l'ai dit, Humanum œuvre en coordonnant nationalement la construction des infrastructures européennes de recherche, donc avec deux ERIC en particulier, Clarine et Daria. Depuis l'année dernière, on accompagne aussi le dépôt de projet ERC, là encore à notre niveau. On l'abordera au niveau des services. Nous avons aussi lancé des coopérations avec d'autres pays comme le Canada, des pays d'Amérique du Sud, et nous suivons des initiatives qui peuvent intéresser aussi les communautés françaises, et on est vraiment dans ce cas-là une sorte d'ombrelle. On fournit les informations justement en allant dans ce genre de réseau, on les fait redescendre au niveau de nos communautés. Donc on reparlera aussi de l'initiative GoFair, puisque c'est devenu un sigle que vous devez connaître maintenant, de faire en sorte que les données soient trouvables, accessibles, interopérables, réutilisables. Donc en général, c'est un mot clé aussi des projets de recherche qu'il faut maîtriser et sur lesquels auxquels nos services s'adaptent. Donc on suit également cette initiative ainsi que la Research Data Alliance depuis peu. Et Humanum, au titre du CNRS, participe aussi à des projets H2020 d'infrastructure. Voilà, soit directement, soit par le biais, soit en impliquant nos consortiums. Voilà pour un panorama, disons, très large de notre fonctionnement et un petit peu de notre implication aussi à différents niveaux de la recherche française et européenne. Et on va maintenant donner un peu plus de détails sur ce qu'est notre infrastructure, ce que nous faisons, donc les services dont nous disposons, que nous offrons, puisqu'ils sont gratuits pour la recherche en SHS, et aussi ce que l'on ne fait pas, parce que c'est important de bien baliser ce périmètre pour que vous puissiez savoir justement ce que vous pouvez demander à Humanum.
Bah, n'hésitez pas à poser des questions, parce que là, Adeline vous a brossé un tableau général. Là, je vais continuer, poursuivre avec la partie plus service, qui est plus triviale d'une certaine manière. Hein. C'est la partie concrète, peut-être, avec laquelle vous êtes en contact. Donc, si vous avez des questions sur tout cet aspect organisation un peu particulière d'Humanum, effectivement, vous voyez que l'infrastructure, elle est technique, c'est ce que je vais décrire là, c'est une véritable infrastructure technique, mais aussi on a une infrastructure au sens européen du terme, c'est-à-dire que c'est des réseaux d'expertise hein, qui sont matérialisés à Humanum par la labellisation de consortium, mais aussi par la participation et les liens avec toute la partie internationale. Donc ce sont vraiment les deux volets d'Humanum qui sont importants à prendre en compte. Donc si vous avez des questions sur ces aspects, non ?
On peut y revenir après aussi.
Voilà, je vais descendre dans la partie service. Donc, vous avez d'autres ingénieurs de l'infrastructure qui sont là. Comme l'a dit Adeline, nous ne sommes pas très nombreux. On a beau être une très grande infrastructure, c'est surtout un label du ministère qui permet d'obtenir un certain mode de financement. Mais à 15 personnes, on peut quand même déjà rendre quelques services. Alors, au moment de la création du Manum, enfin même de son prédécesseur, une étude a été faite. Est-ce qu'il faut fabriquer un data center pour les sciences humaines ou les humanités en général? Évidemment, non. Il vaut mieux utiliser des data centers qui existent et des services qui existent et s'intégrer dans des infrastructures qui existent déjà. Donc, c'est le cas pour nous. Toute notre infrastructure est hébergée à Lyon, dans un centre géré pour la physique, hein, qui est le centre de l'INDP3. Donc, ils gèrent beaucoup plus de données que nous, ils ont beaucoup plus de machines que nous, mais nous, on y est très bien, puisque en fait, ils s'occupent de gérer la partie réseau, la partie électricité, la partie climatisation, ce dont on n'a pas à s'occuper. À noter qu'une autre infrastructure française comme Open Edition est également hébergée à deux pas de notre infrastructure dans les mêmes locaux du centre de calcul de l'IN2P3. Donc ça, c'est pour que vous situiez un peu où est vraiment notre infrastructure. On utilise aussi, on va y revenir rapidement pour l'archivage à long terme, une autre infrastructure qui est spécialisée, qui est le CINES, donc qui est située à Montpellier. Donc vous voyez qu'en fait, on n'essaye pas de refaire des choses qui existent déjà, mais on essaie de s'insérer dans un écosystème français d'infrastructures qui nous permet en fait d'être beaucoup plus efficace et à 15 personnes de pouvoir proposer un certain nombre de services importants. Le budget à peu près du Manum, enfin même pas à peu près, hein, c'est suivant les années, c'est autour de 2 millions. Comme Adeline vous l'a dit, il y a à peu près la moitié qui est destinée à faire fonctionner les consortiums et également aussi les infrastructures européennes. Et nous sommes une quinzaine de personnes, nous grossissons un petit peu au gré des projets européens, mais en moyenne, on est autour de ce nombre-là. Donc tous ingénieurs et tous dépendants du CNRS. Tous et toutes. Voilà. En ce qui concerne les services, plus précisément, donc je vais aller assez vite parce que je pense que la plupart d'entre vous doivent les connaître. On a toute une partie qui est située sur la gauche qui est assez, enfin, qui est plus classique, qui sont des services d'infrastructure où on propose du stockage. Alors, on propose du stockage et là, on va le détailler un petit peu, qui est assez... Maintenant, on peut vous proposer des gros volumes de stockage. On vous propose aussi du traitement, des outils de traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur ces deux ou trois dernières années. C'est-à-dire qu'on achète du logiciel ou des licences et on vous les met à disposition. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et on voit aussi que ça accompagne d'une certaine manière la montée en compétence des communautés en sciences humaines. C'est qu'effectivement, vous avez besoin de plus en plus d'outils. Alors, on avait déjà beaucoup de systèmes d'information géographique, mais on voit aujourd'hui un succès qui ne se dément pas sur le logiciel R, donc qui permet de faire des traitements statistiques et des visualisations. Donc, on voit aussi, nous, c'est un bon observatoire, ça nous permet de voir que les sciences humaines sont devenues aussi très technologiques, et finalement. On a aussi beaucoup d'outils maintenant qui permettent de traiter des données en 3D. Donc ça, ce sont des logiciels qui sont assez chers. Bon, la vidéo aussi, l'OCR. Donc on propose tous ces logiciels. Ça nous permet de faire de la mutualisation. Et nous, on paye les licences et du coup, toutes les communautés peuvent les utiliser. On a également un certain nombre... on propose un certain nombre de services pour la diffusion de sites web. Alors on en a... Ce n'est pas forcément ce qu'on aimerait faire, mais on en a quand même plus de 400, face aux erreurs, aujourd'hui. Et pour les gens qui auraient des plateformes technologiques un peu plus exotiques que ce qu'on propose en standard, on leur propose maintenant, ça fait 3-4 ans, d'utiliser des machines virtuelles dont ils sont complètement maîtres. Donc il y a pas mal de plateformes qui proviennent, comme l'a évoqué Adeline, de nos partenaires, en particulier les MSH, qui ont grossi et qui maintenant sont hébergés Humanum dans des machines virtuelles. On a un peu plus de 200 machines virtuelles aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est pas du tout négligeable et c'est pas du tout marginal. Donc ça, c'est toute une partie technologique que vous retrouvez dans pas mal d'infrastructures, qu'elles soient en sciences humaines ou pas. En revanche, ce qui a fait un petit peu notre originalité, c'est qu'on s'est, dès le départ de la création d'Humanum, intéressé aux données. Donc on a cité... le mot-clé que vous devez mettre maintenant, vous faites un dossier ANR ou un dossier ERC, où vous allez voir un financeur quelconque, les données doivent être FAIR. Alors, on était FAIR avant que le mot FAIR soit inventé, hein, mais effectivement, aujourd'hui, c'est le terme trendy, hein, c'est très à la mode. Donc, finalement, le constat était simple, hein, les données traitées, créées et fabriquées par les sciences humaines, en particulier dans les projets ANR, mais pas seulement, se retrouver enfermé dans des plateformes technologiques telles que des sites web ou autres et devenaient complètement se noyaient en fait dans ces plateformes et n'étaient plus réutilisables par d'autres projets ou par d'autres communautés. Donc on a dès le départ essayé de proposer des outils qui permettent de séparer l'endroit où vous posez les données de l'endroit où vous les montrez, des technologies avec lesquelles vous les montrez. Et ça a donné un outil comme Nakala qui permet, qui a un simple entrepôt assez rustique, qui permet de partager des données et de les proposer à la réutilisation par d'autres. Alors ça, finalement, ça remplit assez bien le côté accessible, interopérable et réutilisable, que vous voyez les AIR. Pour le côté findable, nous avons une plateforme qui est là depuis fort longtemps maintenant, parce qu'on a fêté ses 10 ans, EasyDoor. EasyDoor permet de trouver pas seulement des données, mais évidemment, on l'a appliqué aux données qui sont stockées dans Nakala. Mais EasyDoor, vous avez vu qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir, une nouvelle interface. Vous voyez que vous pouvez trouver beaucoup plus que des données qui sont stockées Humanum, puisqu'on a à peu près aujourd'hui 6000 sources de données, aussi différentes que des carnets d'hypothèses, des événements Calenda, des données qui viennent dans nos partenariats avec l'Amérique du Sud, et que EasyDoor aujourd'hui est en 3 langues. Donc ça permet à des gens qui cherchent des données en français et qui sont hispanisants, hispanophones, de retrouver des données en français, et inversement, à des Français de trouver des données en espagnol ou en anglais. Et il est prévu, dans le cadre de nos collaborations avec des projets et des infrastructures européennes, d'augmenter ce nombre de langues. Et enfin, pour tout ce qui est ce cycle de gestion des données, donc vous voyez que sur la gauche, on a la préparation d'une certaine manière des données et la présentation. Sur la droite, on commence à les partager, ça veut dire qu'elles sont mûres, vous les présentez à d'autres communautés. Et enfin, quand vous voulez les préserver à long terme, donc on a un service d'archivage à très long terme qui est fait en partenariat avec le CINES, qui est un centre de calcul, qui a eu comme mission par le ministère d'assurer la préservation des données de la recherche. Voilà. Alors, on a une particularité qui maintenant est fonctionnelle depuis 2 ans. On a mis en place un système de stockage. Donc, vous voyez, c'est dans la partie stockée, en haut à gauche. On a mis en place un système de stockage qui nous permet d'assurer en fait que vos données assurent 2 choses. Que vos données peuvent être dupliquées un peu partout en France. Donc il y a, Joël, 9 nœuds aujourd'hui. 9, j'étais plus sûr. Donc dispersés en France, qui vous permet d'avoir de pouvoir dupliquer géographiquement des endroits différents. C'est une catastrophe climatique ou une catastrophe perte de courant, des choses comme ça. On est capable aujourd'hui de dupliquer un peu partout en France ces données, de gérer un certain nombre de versions de ces données, de les dupliquer sur des technologies différentes. Donc là, on peut dire aujourd'hui qu'Humanum est une infrastructure qui traite les données de manière extrêmement sécurisée. Et d'ailleurs, on est en train de poursuivre un processus de certification pour que vous puissiez, par exemple, l'indiquer dans vos dossiers ANR ou dans le dossier ERC. Ce dispositif, il est appuyé, comme vous l'avez vu sur l'autre carte, sur le réseau des messages. Il est pas mal appliqué avec nos partenaires des réseaux des messages. Et ça permet, en plus, pour les MSH, d'avoir une sorte de gros disque dur local. Les chercheurs ne voient absolument pas que les données sont pas forcément locales à la MSH. Mais pour eux, ils ont l'impression d'avoir une clé USB ou un disque dur local. Et après, c'est tout le système qui s'occupe d'en faire la copie, de gérer des versions et tout ce qui s'ensuit dans la préservation de données. Donc, on peut offrir des services au niveau local qui sont en même temps, finalement, dupliqués au niveau national. Donc ça, c'est assez original, puisqu'on peut vous dire en Europe, avec Adeline, où on va assez souvent dans diverses réunions, que personne n'a mis ça en place. Alors, c'est dû aussi au fait qu'en France, on est très centralisé et qu'on peut évidemment offrir des choses au niveau national. Mais vous voyez que là, les choses au niveau national se déclinent au niveau aussi régional, grâce au partenariat qu'on a noué avec les messages. On a un autre outil. Alors ça, je vais décliner quelques outils donc, qui a beaucoup de succès. Une sorte de Dropbox du Manum qui vous permet de déposer des données sans les documenter, sans rien. C'est des données que vous avez à disposition que vous voulez, par exemple, partager. Vous pouvez travailler à plusieurs sur ces données. Donc, on y reviendra si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Donc, il y a quelques outils qui sont associés à Sharedoc, comme de l'OCR, mais aussi des outils de visualisation de type Office, hein, Word, Excel, etc., qui ressemblent. Et vous avez aussi des transformations de format vidéo. Donc voilà, il y a un petit écosystème qui se met en place. Et je vous ai parlé un peu de toutes ces licences de données qu'on met à disposition. Évidemment, là, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive. Et si vous avez un besoin de nouveaux types de logiciels et qu'on voit qu'il y a un potentiel d'utilisation par plus qu'une personne, hein, par des communautés, évidemment, on s'intéressera à prendre contact avec l'éditeur de ce logiciel, voir comment il le met à disposition et ainsi pouvoir mutualiser des coûts au niveau national. Donc là, vous voyez que c'est quand même très, très éclectique. Hein. Il y a un peu de tout. De bases de données au système d'information géographique en passant par des outils 3D, mais aussi des logiciels de traitement comme Kakadu qui permet de traiter des images. Donc voilà. L'hébergement de sites web et de machines virtuelles, j'en ai déjà parlé. À noter que vous avez, si vous voulez savoir un peu ce qu'on héberge, vous pouvez voir, il y a un petit moteur de recherche qui permet de parcourir tous les sites web que Humanum héberge. Et la préservation à long terme, donc ça, c'est un grand sujet. C'est quelque chose qui se met en place. Hein. Les sciences humaines sont assez pionnières, on peut dire, dans ce domaine. Pour l'instant, on a surtout préservé des objets qui sont plus du côté patrimonial. Mais évidemment, aujourd'hui, on voit très bien qu'en sciences humaines, la barrière, enfin, ou la frontière entre le patrimoine et les données de la recherche est parfois assez ténue. Et on aura vocation à essayer de préserver sur le très long terme tout type de données qui sont produites par les projets de recherche. Donc, on peut vous citer des cas. Avec Michel, on s'intéresse à un projet qui est fort ancien sur les manuscrits médiévaux qui sont dans toutes les bibliothèques publiques françaises. Mais il y a aussi d'autres données de la recherche, des enregistrements sonores, des données en 3D. Aujourd'hui, tout ce qui a été encodé en TUI, par exemple, ça fait partie de notre spectre de choses qu'on va préserver sur le très long terme. Voilà, je ne vais pas détailler trop les architectures de Nacala, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, on en reparlera. Isidore a changé de nom au mois de décembre. Il a changé de nom, il a pris une dimension supplémentaire, donc on l'a mis dans le domaine .science. Ce qui a changé beaucoup dans Isidore, c'est que déjà, vous pouvez voir que les moteurs d'indexation basés sur les technologies d'intelligence artificielle ont vraiment beaucoup progressé. On a aussi ajouté des référentiels. Et au niveau de l'interface utilisateur, vous pouvez vous créer maintenant un compte, enregistrer vos recherches et les partager avec des communautés d'utilisateurs. Donc il y a un aspect social, réseau social, qui a été mis en place dans Isidore. Et évidemment, on vous invite à y participer et à vous créer un compte. Alors, on a mis en place aussi un système assez souple de création de comptes, puisque vous pouvez vous créer un compte avec, par exemple, votre identifiant Google, vos identifiants évidemment de votre institution, vos identifiants divers et variés, Orchid ou d'autres. Et HAL, évidemment. Donc on s'inscrit vraiment dans ce niveau national des identifiants. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ce qu'on a mis en place aussi, et qui peut être important pour vous, et on y fait référence à chaque fois que vous nous posez des questions, on a mis en place ce qu'on appellerait une base de connaissances, hein, qui s'appelle, vous pouvez y accéder par documentation.humanum.fr. L'outil aujourd'hui n'est peut-être pas parfait, mais le contenu est là. Et donc, vous avez des réponses à peu près à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les services d'Humanum. Et pour ceux qui font des dossiers autant ANR que ERC, il y a une grande partie en anglais, description de nos services en anglais. Et on s'aperçoit que c'était une demande et que c'est très utilisé. Ça vous permet d'avoir des éléments de langage pour répondre, déjà rédigé, et qui vous permettent de montrer que vous comprenez ce que c'est qu'un data management plan, que vous êtes intéressé à la préservation de vos données, à la réutilisation de vos données. Et de cette manière-là, vous pouvez piocher, c'est fait pour ça, il n'y a pas de copyright. N'hésitez pas à les utiliser dans documentation.emmanum.fr. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Si vous, maintenant, c'est à vous de nous poser des questions.
Voilà, donc si vous avez des questions, je pense que oui, et des commentaires, allez-y. Du coup, on invite Michel, Joël et Thomas à s'installer en face, ce sera plus pratique pour tout le monde.
Alors, vous notez aussi qu'on a la chance d'être à la FMSH, qu'il y a Canalu qui est aussi à la FMSH. Et donc, si des personnes vous veulent regarder en différé ou en direct cette présentation, c'est possible sur
la chaîne Humanum. Voilà. Canal U.
Donc on remercie au passage. Hein, merci.
Voilà. C'est très utile pour tout le monde. Du coup, je vais remettre. N'oubliez pas de vous présenter et de parler bien dans le micro.
Merci. C'est pour ouvrir la discussion avec une question très prosaïque et très basique. Manuel Charpie. Manuel Charpie, Visu. Vous évoquiez les outils 3D. Je veux bien en savoir un peu plus, si possible.
Bonjour.
Ah non, attends.
Ah, bon, t'es pas vert.
Attends, je vais vous mettre celui-là. Non, pas de
Oui, donc je ne suis pas le spécialiste, mais d'après ce que les collègues disent, on a essentiellement un outil qui s'appelle PhotoScan, qui est un outil de photogrammétrie qui permet, si j'ai bien compris, de reconstituer un nuage de points à partir d'un ensemble de photo 2D. Quoi. Voilà. Donc on offre à la fois la possibilité de prendre un jeton sur un pool en commun pour traiter sur son ordinateur individuel ou de soumettre des traitements sur notre infrastructure. Donc, ce qui permet d'accéder à des tailles mémoire et à des nombres de cœurs un peu plus élevés que ce que vous avez sur votre ordinateur.
Oui, je compléterai par le fait que on s'intéresse à la 3D en amont, effectivement, comment constituer ces objets 3D à partir de photogrammétrie. C'est devenu une technologie extrêmement répandue. Et pas seulement pour les archéologues, hein. On s'aperçoit que toutes les disciplines maintenant sont passées à la 3D. Alors sachez qu'il y a un consortium 3D qui travaille beaucoup. Adeline organise une formation à Marseille avec ce consortium 3D. Et par ailleurs, on a pas mal travaillé avec ce consortium 3D, enfin, ça fait 4 ans, pour élaborer une manière de préserver la 3D avec notre partenaire le CINES. Donc c'est tout un travail de fond sur le choix des formats, sur le choix des outils de production de ces formats, sur le choix des outils de vérification de ces formats pour qu'on puisse les préserver sur le long terme et dire que ce qu'on préserve, c'est vraiment ce qu'on a envie de préserver, c'est-à-dire c'est bien un bel objet 3D. Alors nous, en tant qu'informaticiens, on ne sait pas ce que c'est qu'un bel objet 3D, mais les gens qui font du métier savent très bien identifier d'un point de vue métier, ce qu'il faut pour définir un objet 3D. Et surtout, il y a eu un travail extrêmement conséquent sur, et là, qui est totalement interdisciplinaire, sur la définition en fait, de métadonnées pour décrire ces objets 3D. Alors, on a commencé avec les archéologues, en particulier nos partenaires d'Archéovision à Bordeaux, mais ça s'est extrêmement... le consortium 3D a permis d'élargir les communautés, hein, puisque on a vraiment maintenant un peu tout type de communauté utilisant cet objet scientifique qu'est la 3D aujourd'hui.
Oui, ça commence. Un des objectifs de l'actuel quadrinal du consortium, c'est vraiment de s'ouvrir au SHS, donc au-delà des archéologues. Et c'est pas toujours facile parce que la demande est très forte et ce sont surtout les gros labos d'archéo qui font de la 3D. Mais maintenant, il y a de l'histoire, il y a de la musicologie aussi, il y a des designers qui entre dans le consortium. Donc voilà, ça s'élargit. Et puis le consortium lui-même construit aussi des outils de visualisation, notamment. Donc je ne sais pas quel pourrait être votre besoin en particulier, mais c'est un consortium très dynamique. Donc si vous êtes dans le champ et que ça vous intéresse, ça vaut vraiment le coup de les contacter, ou vous pouvez repasser par nous.
Oui, bonjour, Odile François Bongarçon, je suis à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, je suis bibliothécaire et je m'occupe des thèses. Je voulais savoir, en fait, au niveau des services, comment s'articulent en fait les différents services. Je ne sais pas, imaginons, je souhaite stocker des données, puis à un moment, je veux les diffuser, et puis après, je veux les archiver. Est-ce qu'il y a des prérequis de base? Comment ça se passe? Enfin, voilà, je suis désolée, c'est une question peut-être un peu
vaste. Non, mais... c'est une question tout à fait dans l'air du temps. On a d'ailleurs des projets, alors peut-être que vous pouvez vous rapprocher je vois au moins deux endroits où on se préoccupe des thèses. Alors il y a un projet qui s'appelle D4 Humanities à Lille. Alors quelle université de Lille, je ne me souviens plus du numéro, mais on peut vous mettre en contact avec eux. Et effectivement, la difficulté ou le besoin, c'est de stocker aujourd'hui les données associées à la thèse. Et je pense que c'est d'une certaine manière le sens de votre question. Donc ils ont commencé à travailler autour de notre outil Nakela, par exemple, pour pouvoir stocker les données qui sont associées à la thèse et faire un lien entre cette thèse et les données qui sont associées. Et sinon, d'un point de vue plus général, on a énormément de thésards qui, aujourd'hui, produisent de la donnée dans le cadre de leur thèse. Hein, c'est 100%. Hein. De la donnée numérique, devrais-je préciser quand même. Et donc, effectivement, on a des demandes quotidiennes de thésards qui nous disent comment mettre à disposition mes données pour qu'elles soient réutilisées. Donc on a cette gamme d'outils que je vous ai présentée. Ça peut commencer par ShareDoc de manière extrêmement le premier niveau où vous ne documentez pas vraiment vos données. Et ensuite, il y a toute la partie Nakala et autres qui demandent un peu plus d'efforts de documentation. Mais là, vous êtes complètement dans le monde faire avec des données interopérables et réutilisables que vous pouvez citer avec un identifiant. Ce qui est indispensable aujourd'hui pour des thèses, par exemple. Et on voit aussi arriver, même en sciences humaines et sociales, hein, devrais-je dire, la notion de pouvoir refaire. Et donc, il faut mettre les données à disposition. Donc, tout ça fait partie d'un grand mouvement. On est en train de travailler avec... évidemment, on n'est pas tout seul. Hein, donc, on travaille avec le CCSD et HAL sur ces sujets-là. Mais aussi plus largement avec les publications, avec Open Edition, puisqu'on est en train de monter avec Open Edition une infrastructure européenne qui prendra en compte ce genre de questionnement. Mais là, au sens vraiment plus large que de la thèse, c'est la publication et les données. Au sens.
Peut-être que vous vous demandiez aussi comment passer d'un service à l'autre, chaîne service de services.
Il n'y a pas de règle générale. Il n'est pas possible, pour différentes raisons techniques, de faire en sorte que un même stockage soit utilisé pour manipuler la donnée dans toutes ses formes par rapport à ce qu'on vous a montré. Mais pour vous simplifier la vie, j'ai envie de dire que ça, c'est notre problème. C'est qu'on vous accompagnera pour éventuellement transférer la donnée d'un lieu à un autre en fonction de ce que vous voulez faire au moment où en fait, vous voulez le faire. Quoi.
Mais par exemple, j'ai un petit peu regardé sur Nakala, il me semble qu'il y a une possibilité de basculer dans la partie archivage au CNES, ou de vérifier que l'archivage est possible.
C'est Michel Barrette.
Oui, pardon.
Oui, là aussi, il n'y a pas d'automatisme. Ce qu'on propose, concernant Nakala, ce qu'on propose comme lien avec l'archivage, c'est de... lors du dépôt, de vérifier que la donnée est dans un format qui serait accepté par le service d'archivage qu'est le CNES. Ça ne veut pas dire que ça va au CNES. Pour aller dans le service d'archivage du CNES, il y a toute une démarche qu'il faut reprendre de documentation. Et là, on a plus une démarche archivistique où on traite le fond, on ne traite pas le document. Mais par contre, si vous vérifiez à l'avance que les données que vous entreposez sont archivables, ne seront pas rejetés le jour où vous les verserez. Vous travaillez en amont, vous évitez des difficultés. Voilà. Mais il n'y a pas de passage automatique pour l'instant de Nacala à l'archivage. Tout comme il n'y a pas de passage automatique de ce que vous faites dans Nacala et du signalement dans Isidore. Par contre, ça tient à vous de signaler votre flux dans Isidore pour que ça puisse apparaître. Voilà, il n'y a pas d'automatisme, mais le déclenchement peut se faire par vous, puis on vous accompagne pour vous aider à le faire.
Évidemment, on a quand même conçu Nacala au départ avec une optique SINES, lointaine certes, mais une optique SINES. Et si vous documentez bien vos données dans Nacala, si vous les mettez dans le bon format, ça fluidifiera d'autant le passage au SINES, hein, c'est clair. Mais ça ne suffira pas parce qu'on est dans une démarche, comme l'a dit Michel, archivistique. Il y a tout un travail intellectuel à faire de reconfiguration de vos données pour les déposer au SINES, qui n'est pas dans la même forme que pour la recherche, en fait. Donc c'est un travail d'accompagnement qu'on fait à Humanum et en collaboration avec le SINES, qui est le seul centre de calcul en France qui a deux archivistes qui ont une coloration numérique, hein, ce qui est assez rare, mais voilà.
Okay, merci. Je suis Anne-Claire Delaunay, je suis responsable du service audiovisuel à la FMSH. Moi, je voulais savoir, parce que je connais paradoxalement pas très bien Humanum, alors qu'on est dans les mêmes locaux. Est-ce que vous travaillez actuellement sur des projets qui concernent la vidéo, et notamment l'indexation vidéo, des choses comme ça? Quels sont vos projets un peu phares en ce moment sur la vidéo, s'il y en a?
On a. Alors, là, Joël peut répondre mieux que moi, mais on stocke beaucoup de vidéos, ça, c'est sûr. On voit que la recherche produit de la vidéo, on n'a pas, à ma connaissance, de projet aujourd'hui qui s'intéresse beaucoup à l'indexation des vidéos, mais ça va probablement venir, puisqu'on entend parler de ça depuis un petit moment, mais là, tu dois être plus avancé que nous sur le sujet. On voit que c'est un sujet difficile. Alors, on a eu des collaborations avec les gens de l'IRI qui ont fait Ligne de temps, donc je sais qu'il y a des gens qui l'ont utilisé, qui sont nous ou pas chez nous, mais qui vont utiliser les données vidéo qui étaient chez nous et qui ont utilisé Ligne de temps pour l'indexer. Donc ça, c'est vraiment encore un autre exemple de la séparation entre l'endroit où vous posez et l'outil avec lequel vous les manipulez. Mais j'ai pas vu encore de choses très précises là-dessus, alors que l'audio, mais Michel peut en parler mieux, on a beaucoup d'audio qui est complètement indexé.
Oui, enfin, j'ai pas percuté parce que ce que je mets sous le terme indexation, ça correspond peut-être pas à ce que vous mettez sous le terme. Pour l'instant, les projets que je connais s'intéressent plus à l'enregistrement comme une ressource et que l'on décrit à l'aide de métadonnées. Donc peut-être il y a de l'indexation dedans. Puisqu'on décrit, peut-être ça recouvre ce que vous voulez. Après, il y a de l'indexation ou de la transcription et de l'alignement du contenu de ce qui est dit dans le flux de parole. Et voilà, il y a plusieurs projets qui s'intéressent à ça. Pour l'instant, les projets que je connais, moi, qui s'intéressent à ça, c'est plutôt dans le domaine de la linguistique, parce que c'était mon domaine de départ. Donc, il y a une bibliothèque... La bibliothèque de la MSH d'Aix ou de Marseille.
D'Aix,
voilà.
Oui, la MSH, la phonothèque de la MSH.
Voilà, puis en linguistique, il y a deux centres de ressources qui stockent des données langagières, donc Cocoon, dont je m'occupe, et puis un entrepôt qui s'appelait le SLDR, qui est repris dans un équipex qui s'appelle Ortholang, qui là aussi détient beaucoup de ressources orales. Alors ce sont des enregistrements vidéo, des enregistrements audio. Il y a quand même une masse plus importante d'audio d'un point de vue historique, parce que les enregistrements commençaient plutôt par l'audio. Maintenant, ça commence à arriver par de la vidéo, mais le traitement est documentaire et c'est la ressource. Donc Voilà, je ne sais pas ce que vous mettez sous terme d'indexation, mais si c'est la description ou la transcription, mais dans les deux cas, il y a du travail qui est fait dans ces centres. Voilà, autour de l'audio.
Alors, au niveau de la vidéo, on a beaucoup de projets qui utilisent la vidéo comme outil, ou même qui sont nativement vidéo. Le centre Edgar Morin, par exemple, évidemment, a des ressources en vidéo qui datent on voit qu'ils ont mis en... C'est un très bon exemple d'utilisation de Nakala, par exemple. Ils ont mis les vidéos dans Nakala, ils les présentent sous forme de catalogue avec un autre outil qu'on appelle Nakalona chez nous, mais aussi ils les ont éditorialisées sous forme de web documentaire, de manière beaucoup plus élégante que ce que nous, on est capable de montrer. Mais les données sont à un seul endroit. Elles sont présentées de manière différente. Et là, c'est intéressant, c'est que le web documentaire, justement, montre une éditorialisation en fonction d'un projet ou d'un besoin particulier. Par exemple, le Panafest de Dakar, donc c'est un truc qui me parle plus. Et on a aussi pas mal de données vidéo et on voit apparaître, autant en audio qu'en vidéo, des besoins de citer une partie de la vidéo. Donc ça, c'est des sujets qui sont presque des sujets de recherche aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de normalisation, enfin, à ma connaissance, sur la manière de citer de manière riche une partie de vidéo, mais c'est un besoin qui apparaît.
Alors, Lina, non. La BNF, oui, mais qui a des collections sonores et audiovisuelles. Lina, non.
On pourrait.
Des tentatives, mais qui n'ont pas abouti. Pour l'instant. Qui n'ont pas abouti pour des raisons, entre autres, de pouvoir réutiliser les ressources qui viennent de chez eux.
Les ressources ne sont pas forcément tout à fait libres. Ouais. Non, mais sinon, on stocke beaucoup de vidéos. Alors, on a. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois connaître. Les outils aujourd'hui produisent des vidéos de taille monstrueuse. Donc, on stocke des vidéos en 4K, alors que peut-être les chercheurs n'ont pas forcément besoin d'avoir de la 4K. On a une centaine de vidéos de moines de la trappe en 4K. Alors, ça nous pose de nouveaux problèmes, parce qu'effectivement, y accéder, donner l'accès via le web, ce sont des choses lourdes. Les stocker sur nos outils, ça peut poser certaines difficultés. Donc on est confronté à cette évolution-là qui est purement technologique. Tu peux répondre, c'est toi qui...
Alors moi, je peux répondre juste sur ma petite partie des projets qui sont rentrés en contact avec moi, qui avaient des besoins de numérisation. Quand c'est vraiment le traitement d'un fonds, quand c'est individuel, je les redirige plutôt vers des laboratoires qui ont de l'équipement, et puis s'ils peuvent se rendre service, on en reste là, ils s'organisent entre eux. Si c'est vraiment un fonds et qu'ils n'ont pas les moyens de le traiter en interne, il y a la solution prestataire, bien sûr. Sinon, je les mets plutôt en relation avec le département des collections sonores, audiovisuelles à la BNF, où là, il faut un intérêt mutuel. Et le traitement peut être pris en charge par le plan de numérisation de la culture, de la BNF. Mais il faut qu'il y ait à la fois une convention de dépôt ou de don de leurs ressources à la BNF. Il faut qu'ils soient d'accord avec l'accès à ces données en salle chercheur. Donc il y a des conditions propres à l'institution BNF. Mais après, la BNF peut prendre en charge à la fois la conservation des supports, que en règle générale, les labos sont complètement démunis de ce point de vue-là. Ils ont zéro équipement. Ils le conservent à la cave, au mieux dans une armoire, des choses comme ça. Donc ça ne pose pas trop de problèmes, mais aussi la conservation après du résultat de la numérisation et d'y donner accès. Et après, on peut éventuellement compléter cet accès avec un accès par les entrepôts dont je vous ai cité les noms, là, soit Cocoon ou Hortolang. On peut redéposer le résultat numérique qui est restitué au producteur dans un circuit propre à la recherche, on va élargir un peu l'accès, non pas en salle chercheur de la BNF, mais plus largement. Voilà, mais c'est de la mise en relation. Donc il faut un intérêt mutuel. Donc il faut qu'il y ait un côté patrimoine. Mais la BNF est très intéressée aussi par les ressources de la recherche. C'est forcément lié à un projet de recherche, si ça vient de la recherche. Non, pas que, bien sûr. Oui, oui. La BNF est beaucoup plus généraliste que ça. Mais elle est aussi intéressée et elle travaille avec le monde de la recherche depuis très longtemps. Donc depuis le début de l'enregistrement sonore. Hein, c'est le département des collections sonores date du musée du geste et de la parole, qui était l'ancienne phonothèque. Enfin, tout ça remonte vraiment au début de l'enregistrement. Donc il y a des échanges avec la recherche depuis le début.
Il y a aussi, selon les fonds, alors pas forcément ce qui concerne les fonds sonores, mais certains consortiums continuent à faire, alors c'est plus leur activité principale, parce qu'on est passé à un autre stade, notamment la réflexion sur les formats, les standards, etc., pour l'archivage, par exemple. Mais pas que, aussi des outils de visualisation, mais des consortiums comme Cahier, par exemple, continuent à financer aussi des petits projets de numérisation. Donc selon évidemment la nature du fonds, ça peut aussi intéresser certains consortiums. Donc ça vaut le coup de nous poser la question, et puis ça peut aboutir effectivement à une valorisation de ces collections. L'intérêt, c'est de ne pas perdre soit des ressources de la recherche, soit des ressources potentiellement utiles pour la recherche.
Nous, ce qu'on met à disposition, en revanche, ça s'illustre bien la place de Humanum, c'est qu'on met à disposition des outils qui permettent de traiter la vidéo. Ça, on a acheté, comment s'appelle-t-il, le luxe. Sorenson, le logiciel Sorenson, qui est censé être un très très bon logiciel de traitement pour passer d'un format à un autre, ce qui est toujours quelque chose de très délicat. Et on le met à disposition de communautés. Et comme l'a dit Joël aussi, c'est pareil pour la photogrammétrie. C'est extrêmement coûteux en temps machine. Donc les gens peuvent faire ces transformations sur notre infrastructure. Mais on n'est pas du tout dans le côté numérisation, ou alors ponctuellement via les consortiums. Voilà.
C'est devenu maintenant assez marginal, mais voilà, encore une fois, c'est au cas par cas, ça dépend du contenu du fonds en question.
Et pour compléter, par exemple, un autre consortium, Corli, qui s'intéresse plus particulièrement aux données de parole, lance régulièrement des appels, ce qu'ils appellent finalisation de corpus, qui couvre des tâches qui permettent de rendre accessibles des corpus qui ne le sont pas, et qui couvrent donc des enregistrements qui sont sur des supports analogiques, et peut éventuellement financer la numérisation. Là, on va se recouper aussi, parce que si c'est des gros fonds, on va les mettre en relation avec la BNF. Si c'est des petits fonds, peut-être le consortium va financer le travail d'un opérateur ou un contrat ou des choses comme ça. Voilà, donc ça se fait aussi marginalement.
Bonjour, Mathilde Labbé de l'Université de Nantes. J'ai une question très ponctuelle à propos des outils de visualisation. Alors, j'ai commencé un projet de recherche avec... il fallait faire le choix entre Nacala et Nacalona. Et si j'ai bien compris, Nacalona, c'est plus ouvert que Nacala. Mais la différence aussi, c'est que les mises à jour et ce genre de choses sont à la charge des porteurs de projets. Et on se trouve en ce moment, avec l'équipe avec laquelle je travaille, devant le choix. On doit faire un choix en termes d'outils de visualisation. Et je voudrais savoir si je peux trouver dans votre documentation une liste des outils de visualisation qui sont effectivement supportés et qui peuvent être mis à jour par Nacala, pour qu'on oriente notre choix plutôt vers cela. Parce qu'on a un problème de pérennité dans la gestion du projet. On va avoir un ingénieur qui vient pendant un an. Et ensuite, on ne sait pas du tout ce qu'on aura, et on ne pourra pourra peut-être pas nous-mêmes procéder à ces mises à jour et faire en sorte que la base de données soit toujours bien reliée au site Internet.
Alors juste pour préciser un peu les choses, donc Nakala, comme j'ai dit, c'est juste un outil rustique. Vous posez vos données et elles sont partageables. Donc elles sont partagées d'ailleurs à partir du moment où vous les posez. Donc voilà l'architecture de Nakala, c'est vous posez des données, on vous oblige à les documenter. Mais par contre, Nakala n'offre nativement aucun outil de visualisation. Alors, qu'est-ce que font les projets de recherche avec les données qui sont dans Nakala ? Soit ils ont des ressources, et à ce moment-là, ils développent leur propre outil au-dessus. Donc, on a pas mal de projets qui ont fait ça. Soit on avait proposé pour des gens qui seraient plus démunis. Alors, on peut citer, par exemple, vous avez là ici l'IFRA, c'est un centre de recherche à l'étranger au Kenya. Ils avaient toute une... C'est l'exemple type d'utilisation que nous, on voudrait voir, si vous voulez. Ils ont numérisé toute une revue de presse, donc ils ont eu un petit financement pour ça. On a tout mis dans Nakala, et avec Nakalona, on les a montrés. Mais évidemment, c'est un outil... basique, hein, Nakalona, c'est simplement un Omeka, un logiciel Omeka dont Humanium s'occupe et qui est un peu restreint, puisque comme ça, c'est nous qui prenons en charge toute la mise à jour, toutes les mises à jour, et on s'arrange, enfin, on vous garantit que ça marchera, quoi. Après, vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Hein. Alors, j'ai cité tout à l'heure un logiciel de web documentaire qui vous permet de montrer ce qu'il y a dans Nakala. Bon, c'est Clint. Je sais pas si... Vous pouvez utiliser un Omeka et donc c'est vous qui vous en occupez. Vous fournit les plugins qui permettent de fonctionner avec Nakala. Vous pouvez montrer vos données dans un carnet d'hypothèses. On s'est évidemment coordonné avec Open Edition pour que ça fonctionne. Et après, au cas par cas, vous pouvez utiliser d'autres logiciels suivant le fonctionnement de ce logiciel. Mais Humanium ne produit pas, ne fournit pas aujourd'hui d'outils de visualisation des données qu'il y a dans Nakala en natif, à part Nakalona.
D'accord, je pensais à la liste des logiciels que vous avez montré tout à l'heure, dont R, par exemple.
Ah non, mais ça, c'est complètement différent. Ça. C'est,
d'accord.
R vous permet de traiter de la donnée statistique, oui, et d'en faire des visualisations. Mais éventuellement, les données pourraient être dans Nakala, mais c'est pas forcément le but principal. Quoi.
D'accord.
Les données que vous mettez dans Nakala, c'est des données qui sont destinées à être potentiellement réutilisées par d'autres. C'est vraiment ça l'idée. Quoi. Et que vous pouvez citer, par ailleurs... Donc, on a des consortiums, par exemple, qui mettent des cartes, des consortiums Imageo, qui ont mis toute leur fond de cartes extrêmement bien documentés. Et eux, ils ont fait le choix de les montrer dans un outil dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Navigae, qui a eu un petit article dans la lettre de l'INSHS. Et qui, donc, les données sont stockées dans Nakala, mais vous les montrez dans un outil d'éditorialisation extrêmement sophistiqué, qui est Navigae. Ils ont eu les moyens, par le consortium, les financements du consortium, de définir cet outil. Mais pour quelqu'un qui reste un an, bah, il faut qu'il fasse des choix qui soient après, qui fonctionnent même s'il n'est plus là. Donc ça, c'est toujours délicat.
Bah, c'était le sens de ma question. Peut-être qu'il serait pertinent, lorsque le projet sera un petit peu plus développé, de revenir vers vous, de vous montrer les choix technologiques qu'on a fait. Pour vérifier avec vous que
ça serait même mieux de proposer les choix technologiques avant, oui, que vous les preniez, comme ça on vous donne un avis. Hein.
Oui.
Mais on propose des solutions de base, mais souvent c'est un peu limité par rapport à ce que vous voulez faire dans votre projet de recherche. Donc il y a pas mal de projets de recherche qui utilisent Nakalona pour montrer une sorte de catalogue et après qui les éditorialisent suivant les besoins des projets de recherche. On a eu ça dans un projet où, par exemple, il y a eu un chercheur, il y a eu un financement de la région, d'un département ou région, je ne me souviens plus. C'était sur révolutionnaire. Donc, l'éditorialisation pour le grand public n'était pas le même que pour la recherche. Donc, elle a créé avec ce financement un outil, mais les données sont toujours au même endroit. Elles sont juste montrées de manière différente.
Dans ces cas-là, on peut peut-être repréciser, c'est vrai que dans la dernière slide, c'est mentionné, mais lorsque vous voulez poser une question donc de l'ordre d'utilisation des services d'Humanium ou de faire une demande carrément précise d'un service, d'ouverture d'un service à Humanum. C'est l'adresse cogrid@humanum.fr qu'il faut utiliser. Donc c'est cogrid, c'est le comité de la grille en fait de services d'Humanum, donc qui regroupe toutes ces personnes et un peu plus, et qui voilà, qui vous répondra et qui suivra votre demande également.
En moyenne, on se réunit une fois par semaine. Il y a des cas qui sont traités au fil de l'eau parce que c'est simple. S'il y a des cas un peu plus complexes, on en discute entre nous et on vous fait une réponse ensuite. Et éventuellement, il y a un échange avant de vous proposer une solution pour mieux préciser votre projet.
Est-ce qu'il y a d'autres questionnements ?
Bonjour, moi je suis étudiant en innovation à l'ENSI Les Ateliers, c'est une école de design. Donc j'avais une question sur le fait, est-ce que vous avez un retour, comme des rapports ou autres, ou des échanges, des chats ou des choses, des chercheurs qui ont petit à petit sont emparés des outils que vous mettez à disposition et qui ont acquis une culture numérique, une culture de la donnée et autres. Est-ce que vous avez des choses qui, que je pourrais, moi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, pour voir un peu une espèce de réflexivité sur ce sujet-là?
Alors, non. Non, pas directement. On envisage quand même, ça serait une sorte d'objectif d'Humanum. Alors, je pense à un objectif, à mon avis, qui est plus large que Humanum, mais Humanum est un bon endroit, un bon point d'observation. Oui, il y aurait probablement, sur ces quelques dernières années, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la recherche a bénéficié du numérique ou pas ? C'est une question ouverte, hein, à mon avis. Et comment les chercheurs se sont emparés du numérique ? Alors, je vais faire de la publicité pour un ouvrage. Vous avez des débuts de réponse dans l'ouvrage de Pierre Mounier qui vient d'être publié et ça doit s'appeler Humanité numérique, quelque chose comme ça, qui vient de sortir. Vous avez un petit historique et des débuts de... Enfin, en tous les cas, il y a des questionnements sur le sujet. Et nous, ce qu'on aimerait bien, peut-être à terme, c'est aussi pouvoir héberger des chercheurs qui, d'une certaine manière, travaillerait sur l'objet que nous représentons, qui est finalement une infrastructure pour les humanités numériques. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais c'est envisagé. Ouais. Et potentiellement avec des partenaires étrangers au Canada ou d'autres. Mais oui, ça serait un sujet extrêmement intéressant et là, totalement réflexif, comme vous dites.
Juste pour compléter un petit peu la réponse par rapport au consortium, parce qu'évidemment... Comme je disais tout à l'heure, pour nous, les consortiums, c'est l'occasion de tout ça. C'est vraiment un vivier qui est très riche et qui est central en fait, pour notre organisation. Donc, on a commencé aussi à mener ce travail réflexif en participant notamment à des congrès internationaux et en travaillant aussi à la publication d'articles. On est en train d'écrire en fait dessus. C'est vraiment intéressant justement de prendre un petit peu de recul et de regarder comment chaque communauté justement s'est emparée de ses questionnements, des outils, comment elle a changé ses pratiques. Si ça vous intéresse, dès que l'article est terminé sur cette question, on pourra vous le transmettre sans problème. Je vais reprendre vos coordonnées peut-être juste après. Mais oui, c'est vraiment une question qui va nous aider aussi à évoluer et à regarder vers le futur. Donc,
comme un point de départ aussi, aujourd'hui, le web envahit le numérique au point de se confondre. Peut-être que vous pouvez aussi regarder l'ouvrage de Valérie Schaeffer. Tu te souviens comment il s'appelle, Joël, cet ouvrage qui est donc sur l'histoire du web plutôt, mais qui aussi est quand même très intéressant dans la manière dont tout ça s'est fait. Mais on n'a pas encore d'épistémologie, de l'épistémologie du numérique dans les sciences humaines. Mais ça serait intéressant, bien sûr. Je pense que notre directeur, il serait très attaché, par exemple. Si
on... Vous y avez fait allusion, peut-être il y a des rapports des consortiums ou autres, peut-être qu'à ce niveau-là, eux-mêmes, ils parlent des choix qu'ils ont faits et de l'aide qu'ils sont allés chercher au niveau de la data.
Ah oui, oui, tout à fait. Effectivement, depuis 2011, dont les premiers bilans doivent dater, donc pour les premiers consortiums comme CAIE, qui est un consortium qui traite des corpus et des grands mouvements, disons, littéraires, pour être très... très généraliste. Effectivement, dans chaque bilan d'activité qui contient aussi une partie prospective, il y a ce travail, mais justement un peu plus au fil de l'eau, d'année en année. C'est pour ça qu'on a aussi ressenti le besoin de faire ce travail pour avoir un petit peu plus de recul, ou essayer en tout cas, et aussi mesurer notre impact, en fait, l'utilité de l'infrastructure dans ce mouvement de l'appropriation du numérique par les communautés SHS. Donc oui, ça c'est une des sources qui va appuyer notre réflexion et nos arguments.
Ça c'est le livre de Valérie Schaeffer qui s'intéresse plutôt au web. La construction du web. Et alors on a fait quand même on a eu quand même quelques approches, mais qui sont plutôt statistiques. On a commencé tout un travail de recherche sur l'utilisation d'Isidore. Donc ça sera publié, c'est en cours. On en a déjà parlé dans nos journées Humanum à Valpré. Et on a aussi publié quelques articles qui étaient aussi tourné autour d'Isidore, c'est comment la publication des données de la recherche dans Isidore fait que certaines communautés de recherche revoient la documentation de leurs données, parce que quand elles les voient publiées dans Isidore, elles les améliorent pour qu'elles soient mieux visibles dans Isidore. Donc il y a un aspect aussi cercle vertueux qui... Donc on avait publié un article l'année dernière, je crois, là-dessus. Non, on avait fait un panel sur le sujet. C'est ça, dans un congrès international Digital Humanities.
Juste un petit commentaire, mais plus qu'une intuition et un avis très personnel qu'une certitude. Je pense que ce que les gens découvrent au cours du temps, c'est deux paramètres qui me semblent importants. C'est l'ordre de grandeur et le temps. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur entre manipuler un document, 101 millions ou 100 millions, les gens finissent par se rendre compte que ce n'est pas tout à fait toutes les mêmes contraintes et les mêmes processus. Et cette notion d'ordre de grandeur, à ma grande surprise, c'est qu'elle n'est pas intuitive a priori. C'est les gens n'ont pas un sentiment a priori que, comme pour des livres, ce n'est pas pareil que d'avoir un livre, 100 livres, 10 000 livres ou un million de livres. Et que le numérique, même si ce n'est pas pesant et pas... volumineux au sens physique, il y a les mêmes questions d'ordre de grandeur. Et l'autre point, c'est le temps, c'est-à-dire que le temps, c'est comment faire vivre une donnée à travers le temps. Donc il y a la question de la technologie qui est associée à la donnée, et les gens se rendent compte que la technologie a une durée de vie qui est beaucoup plus courte que la donnée. Et donc c'est compliqué de faire traverser le temps à une donnée à travers plusieurs technologies, et la connaissance et l'usage de cette donnée. Donc on tombe après sur des questions qui sont très documentaires, mais il ne suffit pas de dire « Ah, mais j'ai des données sur un disque dur au fond de mon armoire. » Quand on a dit ça, en fait, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on a en fait juste rien. C'est qu'on a juste éventuellement peut-être une chance que le disque dur... marche encore, et même s'il marche encore, comme de toute façon, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus, c'est comme si on n'avait en gros rien. Et donc la capacité à transmettre cette connaissance et cet accès sur en fait l'information à travers le temps et les technologies, les gens qui travaillent depuis quelques années dans ce domaine se rendent compte que c'est une question qui est non triviale.
Peut-être ce qu'on peut citer, c'est la diminution des cycles de vie c'est ce que dit Joël, des cycles de vie des technologies. Avant, je sais pas, les médiévistes qui utilisent des chartes médiévales, elles sont toujours là, quoi. Qu'on a fait il y a, dans les années 90 et pour la plupart maintenant perdu. Dans les années 2000, il y a pas mal de choses qui se sont perdues aussi. Le web s'est beaucoup perdu aussi. Enfin, et de surcroît, il y a des choses qui sont encore là, mais qu'on ne peut plus lire, parce qu'on n'a plus les outils pour les lire. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu étonnant et difficile, je pense, à maîtriser. Et on n'est pas en train de résoudre le problème, hein. On est en train plutôt de l'empirer. La vidéo est un très bon exemple, hein. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on pourra relire comme vidéo, alors qu'on est capable de relire des films des années 30. Hein. 1930. Là, je vous ai mis le livre de Pierre qui une vision assez critique, mais qui est aussi une vision historique de l'utilisation du numérique dans les humanités. Et de l'implication aussi des entreprises, hein, puisque une des premières entreprises à s'y être vraiment intéressée, c'est IBM. Et probablement par l'implication de son patron de l'époque qui avait une sensibilité, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas nouveau tout ça.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, Lydie, tu avais une question.
En fait, je voudrais juste savoir ce que j'ai vu passer tout à l'heure dans un slide des données tièdes, ce que c'était, et le logiciel Omeka. Je ne sais pas ce qu'est le logiciel. Voilà.
Alors, le mot tiède, c'est un peu une notion subjective, c'est clair. Ma définition, c'est une donnée qui est accédée peu fréquemment et qui n'est quasiment pas modifié. Donc en fait, c'est un livre. C'est-à-dire que c'est un objet qui est sur un rayonnage qu'on a envie de conserver parce que donc il a donc une valeur, mais qu'on va lire très 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 peu souvent par unité de temps. Il y a au plus une personne qui va le lire à un moment donné et qu'on va quasiment pas modifier, quoi. Voilà. Et sur Omeka, la question c'était. Alors, c'est un CMS, c'est donc, sauf que ce n'est pas un CMS de généraliste comme WordPress ou comme Drupal. C'est un logiciel qui est fait pour de la bibliothèque virtuelle. Donc, c'est fait pour présenter un ensemble de documents.
Voilà. Alors, on l'a choisi, nous, à Humanum, mais il n'y a pas que nous qui l'avons choisi. Hein. Il présente un intérêt certain, c'est qu'on a déjà une bonne visibilité sur la feuille de route, puisque ce n'est pas développé par un éditeur commercial, mais c'est développé par un centre de recherche en histoire aux États-Unis, qui est connu pour avoir développé Zotero aussi. Donc ce sont des gens avec qui on a des contacts, on peut leur poser des questions, on sait vers quoi ils vont. Et ils ont surtout, dès le départ, intégré un format de documentation qui est normalisé, et ont intégré pas mal de standards dans ce logiciel. Alors, c'est pas le plus joli logiciel de présentation. WordPress fera des choses beaucoup plus esthétiques. En revanche, c'est quelque chose qui est assez solide et qui est là depuis un certain nombre d'années. Et nous, on en héberge vraiment beaucoup.
C'est à peu près on est à 120 ou... Enfin, ouais.
Sur 400 sites, on est presque un tiers qui est du Omeka. C'est pas un hasard. Ce n'est pas une politique d'Humanum, hein, c'est que effectivement les projets de recherche se sont retrouvés dans ce logiciel, même s'il a ses défauts. Hein. Et PSL Étoile est en train d'investir sur la nouvelle génération de Omeka, qui s'appelle Omeka S, et est en train de développer beaucoup autour de ce logiciel.
D'autres questions ? Commentaires, doutes. Non.
150. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère que on ne vous a pas embrouillé, que ça a été assez clair. Donc vous voyez aussi, pour terminer, peut-être qu'une infrastructure en humanité numérique, c'est quelque chose qu'il a fallu un peu inventer. Donc Humanum est jeune, hein, nous avons 4 ans, enfin presque 5 maintenant. Oui. Et donc, on est regardé quand même avec curiosité par les autres infrastructures en France, hein, bah, les physiciens, les biologistes. On se rend compte que finalement, on a quand même des points communs. Et on peut vous dire qu'en Europe, une infrastructure nationale pour les sciences humaines, ça n'existe qu'en France. Donc on a quand même réussi, grâce à notre centralisation, on a quand même aussi réussi à créer quelque chose qui est quand même un peu original dans le paysage même international.
Voilà, et comme je le disais, ben, n'hésitez pas soit à passer par les liens qu'on vous a fournis pour essayer de creuser un petit peu, ou alors à nous écrire tout simplement sur CoGrid, sur le site d'Humanum, vous avez aussi les contacts de chacun des membres d'Humanum de l'équipe. Donc pour ce qui est des questions internationales ou des ORC, n'hésitez pas à me contacter, par exemple. De toute façon, même via CoGrid, donc tous les emails sont redirigés vers la personne qui pourra le mieux vous répondre à Humanum, que ce soit à Paris ou à Villeurbanne aussi, où on a trois ingénieurs qui sont sur place. Et n'hésitez pas aussi à revenir si le besoin s'en fait sentir. Donc la prochaine fois, ce sera le 8 février, et centré sur les ERC, parce qu'il y a une date en février de dépôt d'ERC. Et en avril, on consacrera la session à l'ANR et au projet ANR. Et on invitera encore certainement une personne de la délégation régionale qui traite justement ces projets pour qu'on voit bien quel est le périmètre de chacun et comment chacun peut vous aider à son niveau.
Si vous avez une idée de consortium, soumettez-nous là.
Oui, vous pouvez aussi essayer de mobiliser la communauté autour du traitement d'une question. Vraiment, c'est assez intéressant. Ça aussi, ça nous a finalement beaucoup été dit de l'extérieur que le fait que ces consortiums soient créés, que ce soit aussi des structures vraiment évolutives et pas du tout gravées dans le marbre, enfin, voilà, pas du tout pérennes. Finalement, ça crée aussi une certaine émulation et un renouvellement des questionnements qui est intéressant et original à l'échelle européenne. Donc, on est toujours, il n'y a plus d'appel à projet, mais on est toujours ouvert. Justement, on prend les demandes au fil de l'eau et le conseil scientifique les évalue une fois par an au moment de l'évaluation des bilans des consortiums en fin d'année. Voilà.
Il y a deux consortiums, par exemple, qui sont dans la file d'attente là en ce moment.
Voilà. Ah, merci beaucoup.
Merci.
Et à un prochain Humanum Bar, peut-être.